BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'émission qui s'occupe de vos finances personnelles tous les jours de 10h à midi en direct à la radio, à la télé, sur le web et puis vous le savez aussi en podcast à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Nous sommes vendredi 19 avril 2024. Au programme de l'émission LVMH. LVMH plus fort que notre secteur agricole tout entier. À lui seul, le géant du luxe rappelé hier payé 3 milliards d'impôts en France et représenté 4% des exportations de notre pays. Edwin Faure de Philippe Autingre va venir analyser ces chiffres avec nous. L'indice de peur VIX s'envole. Prime de risque géopolitique, record de positions longues sur le pétrole et pourtant des cours qui ne bondissent pas au-delà des 90 dollars, ce qui est plutôt curieux. Antoine Larigauderie va venir décrypter cela avec nous. 10h30, votre dose d'économie quotidienne avec Stéphane Pedrazzi. On parlera des limites du patriotisme économique avec le cas de Biogarant. Côté bourse, Antoine sera avec nous pendant une grosse demi-heure et puis nos deux traders sont en train de se connecter pour la séance du jour, pour notre match des traders. Ce matin, on vous coach immobilier avec la probabilité d'une baisse de taux, c'est peut-être le moment d'investir. Olivier Lévy de Lévy Capital Partners va venir nous parler de sous-jacent. Et à 11h15, on reparlera immobilier, on parlera d'achat de passoires thermiques. Est-ce une bonne idée? On va vous donner une grille d'action pour y aller ou ne pas y aller. Et puis aujourd'hui, on sera en spécial Bitcoin, spécial halving. Il a lieu dans quelques heures, ce halving. Nous serons en équipe avec Amaury Tonquédec et entourés d'un trader et d'un spécialiste pour décrypter à quelques heures cet événement qui est important pour la sphère crypto. Ce sera vers 11h30. Vous avez des questions, chers auditeurs, auditrices, vous voulez participer à cette antenne, les adresses c'est direct à bfmbusiness.fr ou bien sur LinkedIn. Je suis connectée, je vous lis en message privé, n'hésitez pas à nous joindre. Il est l'heure de rejoindre Antoine à Euronext pour suivre ce qui se passe du côté du CAC 40 depuis 1h07. Nervosité, c'est le mot ce matin pour décrire les marchés. Notre CAC 40 est en baisse marquée, mais on s'en sort pas trop mal, n'est-ce pas Antoine?
Oui, parce qu'il faut raconter ce qui s'est passé ce matin, mais effectivement, l'annonce de l'envoi de drones israéliens au-dessus de l'Iran a provoqué énormément de nervosité sur les marchés. On a cru à une riposte massive de la part d'Israël par rapport à tout ce qui s'est passé le week-end dernier. Et du coup, on a vu les futurs s'effondrer, le pétrole bondir au-delà des 90 dollars, l'or également. Enfin, on sentait vraiment un marché de guerre. C'était aux alentours des 4 heures du matin. Et puis, les choses se sont vraiment tassées en cours de matinée. On a vaguement compris que cette réplique était modérée, était limitée. Et donc, du coup, les indices se sont mis à reculer, mais alors beaucoup moins fort. Là, on a un CAC 40 qui est en repli de 0,69%. Alors, c'est vrai qu'on reste sous les 8000 points, 7967 points. Mais enfin, c'est globalement bien payé. Moins 0,9% pour le DAX à Francfort, moins 0,8% pour l'Eurostock 50. Mais les signes de nervosité, ils restent là. On a un indice VIX, un indice de la volatilité qui dépasse à nouveau les 20 points. 20 points, c'est quand même un niveau de stress important sur le marché. On sent que là, vraiment, ce qui s'est passé cette nuit, c'est un rappel que la prime de risque géopolitique n'est pas à écarter tout de suite après que la menace soit un petit peu estompée. C'est vraiment quelque chose qui est appelé à rester sur le marché. Le baril de pétrole Brent, qui avait grimpé au-delà des 90 dollars, redescend sous les 88. La correction est tout aussi violente que la montée. Et du côté de l'once d'or fin, on se maintient quand même à 2400. Preuve que là aussi, il y a une prime de risque qui s'est installée un petit peu plus durablement. Les titres du jour, Renault qui perd 4%, 46,88€. Profit warning de Nissan ce matin. Il est un peu passé à l'as parce que l'actualité était foisonnante d'autre part, mais profit warning de Nissan pour l'ensemble de son exercice fiscal du fait de la baisse de la demande, notamment pour les véhicules électriques et pour tout un tas d'autres facteurs. À noter Accor qui recule de 2,28% à 38,97€. Le secteur de l'hôtellerie, le secteur de l'aérien qui évidemment sont atteints de plein fouet par l'agitation actuelle, a signalé la technologie qui est en baisse aussi. ST Micro perd 1,7% à 36,93 €. D'autre part, quand même à signaler la très solide performance de L'Oréal qui, dans un marché baissier agité, arrive quand même à signer une hausse de 4,7%, 443,65 € avec la qualité de ses chiffres trimestriels parus hier soir. On a Orange aussi, valeur défensive, qui gagne 1% à 10,79 €. Veolia plus 0,35 € à 28,73 €. Sanofi plus 0,47 € 85,63 €. Et puis Léo vous en parlait tout à l'heure, la galaxie Sodexo qui signe une très belle performance en bourse après les résultats de ces dernières heures. Sodexo plus 2,8 €, on est à 79,45 €. Et puis Pluxi, sa filiale de titres de paiement, qui gagne 8,8% à 27,66 €. Le CAC donc moins 0,63 €, on est à 7972 € et l'euro 1 $ 0,653 €.
Antoine, vous restez connecté depuis Euronext, vous allez être un peu notre fil rouge depuis la bourse ce matin, parce qu'on va reparler évidemment prime de risque, on va revenir aussi sur le pétrole, sur l'indice VIX, et entre autres sujets d'ici quelques minutes. A tout de suite Antoine. Pour l'heure, on fait le point sur les actualités qui vous concernent en tant qu'investisseur.
Tout pour investir, le journal de votre argent.
Trois titres à la une. D'abord, le halving et les mineurs et les mineuses peut-être qui se préparent. Vous le savez, tous les 4 ans, la production de Bitcoin est divisée par 2, ce qu'on appelle le halving. Il y en a déjà eu 3. On attend donc le 4e d'ici quelques heures, probablement au petit matin, heure de Paris, demain, samedi 20 avril. C'est un événement qui se répète généralement tous les 4 ans, mais surtout tous les 210 blocs minés sur la blockchain. Notez que sur Google, cette nuit, la recherche de l'expression Bitcoin halving explose tous les records. À l'heure où on se parle, le Bitcoin se négocie autour des 65 000 $. Nous serons en équipe d'ici 11h30, d'ici 1h15, avec Amaury de Tonquédec, Gilles Santacreux et aussi Stéphane Ifra de CoinHouse pour faire le point sur cet événement, ce qu'il signifie à très court terme d'un point de vue technique, mais aussi à plus long terme pour nous et vous, investisseurs. Autre sujet concernant la Française des Jeux. Les différentes publications d'entreprises ont été plutôt bien accueillies en bourse hier jeudi, sauf pour la FDJ. L'action du géant français des jeux d'argent a clôturé dans le rouge vif la séance d'hier, avec une publication de croissance au premier trimestre en ligne avec les objectifs, mais inférieure aux attentes de plusieurs bureaux d'études. Et ça a laissé les analystes financiers assez désappointés. La FDJ va-t-elle amplifier ses pertes en bourse au cours des prochaines séances ou des prochaines semaines? En tout cas, alors on se parle. Elle se négocie autour de 34,9 €. Je vous renvoie à un article de Julien Marion sur notre site web bfmbusiness.com pour tous les détails et l'actualité de FDJ. Et un mot de LVMH pour finir. LVMH plus fort que le secteur agricole, oui. L'Assemblée Générale des Actionnaires du groupe s'est tenue hier, le 18 avril, à Paris. L'occasion pour le géant français du luxe de revenir sur ses résultats et d'annoncer plusieurs mesures en faveur de ses salariés. Le groupe verse à 214 000 employés plus de 13 milliards en salaires, primes et cotisations patronales. En France, ce sont 40 000 personnes employées et LVMH, rappelé hier, payait plus de 3 milliards d'impôts en France et représenter 4% des exportations françaises. C'est plus que le secteur agricole français, 4% de toutes les exportations. L'année dernière, selon une étude du cabinet de conseil Astares pour LVMH, publiée hier, plus de 23 milliards d'euros de produits exportés. C'est supérieur, effectivement, à la contribution du secteur agricole. Ces chiffres, nous allons y revenir en détail, les décortiquer et parler de l'importance du luxe pour notre balance commerciale avec Edwin Faure, directeur de la gestion chez Philippe Autingre, d'ici quelques minutes. À suivre, nervosité sur les marchés, contexte géopolitique compliqué. Nous passons une tête chez nos traders pour savoir comment agir, comment se comporter dans une journée comme celle-ci sur les marchés.
Tout pour investir, le match des traders.
C'est vendredi, Jean-Louis Cussac est là. Bonjour Jean-Louis, trader pour compte propre chez Perceval Finance. Bonjour. Conseil. Et Gilles Santacreux, qui sera aussi un petit peu notre fil rouge aujourd'hui. On vous retrouvera dans la séquence crypto avec nous et un petit peu plus tard dans BFM Bourse. Gilles, vous êtes trader algorithmique et administrateur du site boursicoté.com. On va démarrer avec vous. Nervosité, bonjour. Évidemment, c'est le mot-clé. Et pourtant, résilience, on a l'impression, de notre CAC 40. Expliquez-nous, Gilles.
Alors, ce qui s'est passé, c'est que le stress a eu lieu durant la nuit, donc aux alentours de 2-3 heures du matin. Au niveau des actifs qui cotaient, on a pu voir de forts décalages, mais ensuite, vu qu'il n'y a pas eu de suite, eh bien, les indices et les actifs sont revenus plus ou moins au calme. Toujours est-il qu'il reste une forme d'inquiétude. Donc, on est sur un marché qui reste assez fébrile. Au niveau de la tendance du CAC 40, ça ne change pas grand-chose, en fait, vu qu'on n'a pas l'espace de cotation, justement, qui a eu lieu durant la nuit, eh bien, on est sur une petite reprise de mouvement baissier, mais dans une tendance de fond qu'il était déjà. On n'a pas pour l'instant, au niveau de la cotation qui démarre à partir de 9h, de hausse de la volatilité. Par contre, si on regarde les futurs, on est venu tester des zones proches des 7915 points. Donc là, c'est des signaux d'alerte qu'en cas de rupture de cette zone, eh bien, on aurait une dynamique baissière qui pourrait fortement accélérer, avec un premier objectif à 7880, puis 7800 points, et un comblement du gap que nous avions eu le 22 février. Au niveau de mes algorithmes qui ne tiennent pas compte de la configuration géopolitique, on a des probabilités de rebond, mais de rebond qui ont une conviction assez moyenne, c'est-à-dire on pourrait revenir sur des niveaux proches des 8024 points. Donc globalement, ce qu'il va falloir surveiller en cette séance qui sera technique, puisque c'est une séance à trois sorcières, c'est d'éventuelles reprises de volatilité. L'actif à surveiller, qui tient un petit peu tout, c'est le pétrole. D'ailleurs, justement, durant la nuit, eh bien, le pétrole qui, lui, cotait, a gagné 4% en quelques minutes avant de redescendre. Et donc, quelque part, c'est vraiment l'actif qui va cristalliser, qui va symboliser un petit peu les inquiétudes géopolitiques que l'on a actuellement. Et lorsque l'on sait que le pétrole, justement, eh bien, pourrait redonner un petit coup de boost à l'inflation, eh bien, ça pourra avoir des effets aussi sur les perspectives de baisse des taux, des banques centrales. Donc, un risque assez majeur, et ce contexte géopolitique pourrait se propager à l'ensemble des marchés. Donc les zones à surveiller, 7915, donc si on redescend, si le marché se stabilise et continue à monter, on a un niveau, qui pourrait commencer à neutraliser la tendance baissière de fond aux alentours des 8024 points. Mais globalement, actuellement, eh bien, on est toujours sur une baisse de volatilité. Tant qu'on regarde les zones de cotation du CAC 40, mais avec un risque baissier qui reste très présent.
Merci beaucoup, Gilles. Jean-Louis, votre regard sur ce que vient de dire Gilles, et puis plus largement sur la journée sur les marchés.
On est à 500 millions de volume, donc il n'y a pas de phénomène de panique. Et tous ces derniers jours, les ventes n'ont pas du tout été appuyées. Il y a eu surtout, et comme je l'avais déjà répété, un recul des vendeurs, mais pas une vraie avancée des vendeurs. La volatilité implicite sur juin, elle est autour de 14,5, c'est normal sup, on va dire. Mais il y a rien d'extraordinaire. Alors cette nuit, oui, entre 3h30 et 4h30 du matin, moi j'ai des options, des puts que j'avais sur le marché US. Malheureusement, j'étais pas derrière à ce moment-là et je m'y attendais pas. Mais ils ont fait 5 fois la mise, ça a été violent. Et puis, ça s'est déjà calmé. On est retourné par la case départ, puisque on a fait un cran en dessous, mais ça s'est calmé très vite. Donc les investisseurs semblent se dire que ça va pas dégénérer. Et pourtant, c'est vrai que les risques sont très importants. Mais dans les prix, pour l'instant, on le voit pas. Mais on le voit pas aussi, pourquoi ? Parce que les gérants, les investisseurs sont déjà protégés. Ils sont déjà très méfiants. Ils ont fait tout ce qu'il fallait. Et c'est pour ça que durant toute la phase hausse, je disais, les marchés sont quasi invulnérables à l'effet systémique, à l'effet domino. On peut pas partir en effet domino, même avec un catalyseur un peu négatif. Alors le un peu négatif ne fera rien. Le très négatif, évidemment, va provoquer un décalage à la baisse, mais pas l'effet domino qu'on avait connu en 2020. Donc voilà, on est dans une situation très différente. Là, ce matin, moi, je considère, comme la semaine dernière, comme la semaine d'avant, tant qu'on est au-dessus de 7890, alors on va parler du cash, parce on rentre dans la période des dividendes, ça va être compliqué pour les auditeurs, mais tant qu'on est sur le cash, au-dessus de 7890, moi, j'achète, systématiquement. Et systématiquement, j'ai vu plus haut. Alors, parfois, on gère de la perte temporaire pendant quelques heures, mais on attend, on a son stop sous les 7890 et ça remonte. Donc, tant que moi, ça fonctionne, je continue et j'ai aucune raison, puisqu'on a flirté rester avec ce niveau de 7890, eh bien, je n'ai aucune raison de changer. Pour l'instant, on reste au-dessus. Là, on attaque, donc je vous disais, les dividendes. On travaille sur l'échéance du contrat à terme futur mai. Et là, il va y avoir à peu près, il y a 75 points d'écart entre le futur et le cash. Il y a à peu près 100 points de dividendes et 25 points de taux d'intérêt. C'est-à-dire 100 moins les 25 de taux d'intérêt. Enfin, c'est le moins 100, si vous voulez, qui va s'enlever de la valeur du CAC 40 et les plus 25 de taux d'intérêt qui s'appliquent donc sur le futur. Donc, l'anticipation du contrat, si vous voulez, à échéance, pour l'instant, il y a 75 points d'écart. Donc, voilà, il n'y a pas vraiment de changement majeur. La stratégie, c'est toujours celle d'acheter prudemment, protéger. Et comme on est tous protégés, ben, les marchés y tiennent parfaitement bien.
Voilà, résolution de l'équation avec vous. Merci Jean-Louis Cussac, on vous retrouve lundi. On verra si vous avez vu juste. Gilles, on vous retrouve dans 1h10 parce que vous serez avec nous dans le spécial Halving, notre séquence dédiée au Bitcoin tout à l'heure. Avec vous, évidemment, on envisagera les aspects techniques de cet événement lié à la blockchain. À tout à l'heure, Gilles. Merci Jean-Louis. À suivre le débat de votre argent.
Tout pour investir, tout pour votre argent.
Je ne sais pas si on va débattre, mais on va tâcher de vous éclairer. Ce vendredi matin, Antoine Larigaudry est toujours connecté depuis Euronext. Rebonjour, cher Antoine. Nous sommes également avec Edwin Faure, directeur de la gestion chez Philippe Autengre. Bonjour Edwin.
Bonjour Lorraine.
Vous serez avec nous tout à l'heure sur la séquence marché, mais vos lumières vont nous servir dès à présent. Et Amaury de Tonquédec va venir nous rejoindre d'ici quelques minutes parce que c'est jour de halving. Donc Amaury sera beaucoup avec nous. Antoine, on va commencer avec vous pour faire le point sur VIX. VIX qui s'envole, le pétrole avec ses records de position longue. Expliquez-nous ce que vous observez et ce qu'on peut partager avec nos auditeurs et nos auditrices.
Il y a des graphiques absolument spectaculaires hein, si on regarde sur 24 heures. Il y a effectivement un aller-retour vraiment, vraiment très impressionnant autour de l'or et autour du pétrole par rapport à ce qui s'est passé cette nuit en Iran. Hein. On le voit. Alors, on est loin d'avoir effacé la flambée. Hein. Il reste quand même des points de fixation et notamment autour de l'or hein, qui est vers les 2 400 $. On lâche pas trop de terrain. Hein. On est vraiment sur ces gains-là, mais on est monté beaucoup plus haut hein, cette nuit. On est quasiment allé toucher les records historiques, hein, les derniers de ces dernières semaines. Sur le pétrole, c'est assez net. On le voit, on a eu une progression qui nous a amené au-delà des 90 $, au pire vraiment de la tension de cette nuit, avant une décrue absolument spectaculaire. On est loin sous les 88 $. Maintenant, on est à 87 $18, avec même une option du côté des 86 au vu de la correction. C'est peut-être là qu'elle est l'énigme. Parce que si on regarde bien, du côté du marché des options sur le pétrole, c'est un observateur là, qui soulignait ça lundi, on est sur un record historique de positions prises à l'achat, donc en direction d'une hausse. Sur le marché des options, on est à 350 000 contrats sur la seule séance de lundi, ce qui constitue un record absolu. Et on le voit ces dernières semaines, on voit que le pétrole dépasse toujours légèrement les 90 $, mais ne va jamais au-delà, même en cas de forte hausse de la prime de risque géopolitique, alors qu'elle se situe précisément dans une région où il y a un très important producteur de pétrole, à savoir l'Iran, et un très important producteur de gaz naturel, qui est Israël, le détroit d'Ormuz. Je ne vais pas vous refaire la carte, mais effectivement, il y a une très forte prime de risque géopolitique là-dessus. Et pourtant, le pétrole ne décolle pas au-delà des 90, malgré ses options records. Donc, il faut y voir deux choses. Soit elles ne se sont pas encore exercées, et dans ce cas-là, la montée risque d'être absolument spectaculaire en cas de nouvelle tension, et ça risque de provoquer quasiment une crise énergétique de fait, soit elles ne se déclenchent pas parce qu'elles sont toutes rivées sur les 90 $ et ne veulent pas aller au-delà. Pourquoi ? Parce que justement, ce retard que la Fed prend en matière de baisse des taux va provoquer mécaniquement une baisse de l'investissement et une baisse de la demande, peut-être, en termes de pétrole. C'est ce que anticipent certains analystes. Et dans ce cas-là, ce serait un signal non pas encourageant, mais vraiment à retenir pour l'ensemble des investissements, pour l'ensemble des semaines et des mois à venir, parce que là, on a un indicateur pétrole qui reste très intrigant et qui n'en finit pas de se faire poser des questions. Quant au VIX, bon, on a pu le voir, et ça reste peut-être la morale de cette journée, c'est-à-dire qu'on a grimpé en flèche après l'incident de la nuit, simplement on ne descend absolument pas, il n'a absolument pas corrigé, il reste au-delà des 20 points, et 20 points c'est un niveau de stress qui commence à redevenir très sensible sur les marchés.
Le VIX installé au-dessus des 20 points. Edwin, de chez Philippe Autingre, votre regard sur ce que vient nous dire Antoine ?
Ben c'est assez clair, hein. Le VIX c'est vraiment l'indicateur de la peur, hein. Donc quand le VIX monte c'est qu'on a peur, c'est souvent quand il y a des incertitudes économiques ou géopolitiques, c'est exactement ce qu'on vit depuis quelques jours, quelques semaines, depuis l'annonce dimanche dernier de cette attaque de l'Iran sur Israël, et hier soir pendant la nuit cette attaque d'Israël sur l'Iran, pour qui sont des attaques pas très fortes en quelque sorte, ce qu'on comprend ce sont des attaques qui sont programmées pour attaquer le système antiaérien iranien. Donc on ne sait pas du tout aujourd'hui comment ce conflit va monter en puissance. Ce qu'on sait, c'est que si Israël, ça fait depuis 5 ans, essaye bien sûr de désarmer la puissance nucléaire de l'Iran, s'ils veulent taper fort, c'est sûr que le VIX va progresser. Le VIX va progresser dans cette zone, le pétrole aussi corrélé au VIX, c'est-à-dire que si il y a des tensions en géopolitique dans ces zones, le pétrole va fortement progresser. Aujourd'hui, le marché ne veut pas le jouer fortement, c'est-à-dire qu'on a vu une montée du pétrole, une montée du VIX, et après un retracement. Mais une chose qui est sûre, c'est que dans ces environnements d'incertitude, toutes les matières premières, surtout dans le luxe, donc c'est-à-dire l'or ou l'argent, progressent. Ce sont des valeurs de refuge. On peut aussi parler des valeurs de défense, qui sont souvent des actions qui ont tendance à progresser quand il y a des incertitudes géopolitiques. Mais en tout cas, aujourd'hui, le marché est toujours en train de balancer entre est-ce que ça va être plus fort, est-ce que ça va être moins fort. Et c'est ça qui est difficile à lire. Donc, on recommande toujours d'avoir un peu d'or structurellement et des valeurs de défense dans un portefeuille.
L'or, vous l'avez entendu, hein, qui est en dessous de ses records des dernières semaines, autour de 2397 $. Une riposte israélienne, pas inattendue donc, qui malgré le tout, eh bien, crispe les marchés et les rend un petit peu plus nerveux. Nous allons continuer à parler d'actualité économique. Dans quelques heures, ça sera le halving. Bonjour Amaury Tonkédek.
Bonjour Lorraine, bonjour à tous.
Dans une heure, nous serons en émission spéciale pour décortiquer cet événement. En deux mots et sans vendre la mèche de ce que nous allons dire tout à l'heure. Pourquoi, pour ceux qui nous écoutent, investisseurs pas forcément investis en Bitcoin et en crypto, c'est un événement à avoir en tête?
C'est un événement parce que ça rappelle que le Bitcoin est un actif rare dans le monde numérique. Et entre guillemets, le halving, le quatrième depuis la création du Bitcoin en 2009, ça rappelle ça. C'est-à-dire que ça rappelle le fait que tous les 4 ans en moyenne, les nouveaux Bitcoins émis sur le marché sont divisés par 2, ce qui augmente la rareté de cet actif. Ça devrait avoir lieu demain matin, très tôt. On ne sait pas encore l'heure.
Les potrons minés.
Voilà, c'est ça. C'est tous les 210 000 blocs minés. Donc, faut voir un peu où on en est. Ça dépend de la difficulté de minage. Mais voilà, ça devrait avoir lieu demain matin. Et on va en parler, Lorraine, tout à l'heure. Parce que c'est important.
Absolument. Avant de parler de Bitcoin, parlons d'un des symboles forts de notre économie. Un des plus gros poids lourds de notre CAC 40. LVMH. Edwin, nous décortiquons cette valeur avec vous. Bon, plein de choses à dire sur LVMH qui est publié cette semaine. Mais ce que nous retenons, c'est son poids. Son poids et surtout son importance supérieure au secteur de l'agriculture.
Exactement. Au niveau des exports, LVMH représente 4% des exports français, donc c'est colossal. Alors que l'agriculture française, c'est-à-dire le vin, le camembert, tout ce qu'on adore exporter à l'international, ne représente qu'à peu près 3,5%. Donc dans l'esprit des gens, en se disant nous on exporte le savoir-faire français, le luxe est beaucoup plus important. Et si on prend Kering, Hermès, LVMH, ça représente 12% de nos exports. Donc vraiment la France est devenue vraiment un exportateur du luxe avant le fromage et le vin qu'on aime bien vendre aux Américains. Et ça c'est assez considérable, et ça veut bien dire que le poids de ces entreprises, de ces dirigeants au niveau des gouvernements est très important. LVMH a publié, comme vous le disiez très justement, cette semaine, des résultats qui étaient un peu en ralentissement. Il y a toujours une croissance, il y a toujours des incertitudes sur les entreprises, sur la partie des chiffres d'affaires en Asie. Il faut bien comprendre que ces entreprises de luxe, à peu près 30% de leurs chiffres d'affaires, voire 40%, sont faites en Chine, qui a tiré la croissance depuis 30 ans, qui a aussi tiré les marges. Le ralentissement se fait peiner. On pense qu'il va y avoir un rattrapage en Chine sur la deuxième partie de cette année, mais à court terme, eh bien, il y a encore un ralentissement après deux années ou trois années exceptionnelles dans le luxe. Et LVMH, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a deux des enfants de Bernard Arnault qui rentrent à l'entreprise. Donc maintenant, il y a vraiment toute la famille réunie. Donc, question, que va se passer après l'ère Bernard Arnault avec, je crois qu'ils ont cinq enfants ou plus qui dirigent cette entreprise. Est-ce qu'il va y avoir une guerre de pouvoir? Est-ce que ça va être dirigé différemment? Donc, c'est vraiment une histoire famille française intéressante à suivre.
Voilà, l'Assemblée Générale des Actionnaires qui avait lieu hier. Un mot peut-être pour finir, hein, c'est 40 000 personnes LVMH en France. C'est 8 milliards d'euros de retombées fiscales pour l'État et les collectivités locales. Et puis c'est 3 milliards d'impôts payés en France LVMH. Ça donne quand même l'idée du nombre de personnes concernées par cette entreprise. Antoine, le mot de la fin peut-être pour vous sur LVMH qui suivait au quotidien cette valeur, sa pondération dans notre CAC 40. Qu'est-ce qu'on peut dire pour finir cette discussion?
Que le parcours est bon, que la publication de cette semaine a remis en tête aux investisseurs que de toute manière la croissance absolument sidérale du secteur du luxe, c'est une période qui est un petit peu révolue, que maintenant on se consacre surtout sur les performances fondamentales financières et commerciales d'LVMH et que là les choses vont plutôt bien. On craignait une dégradation très forte du climat du côté de la Chine, ça devenait une sorte de storytelling du marché, on voit que globalement les choses vont quand même pas si mal. Et LVMH a réveillé un secteur du luxe qui a permis au CAC 40 de signer de bien meilleures performances que les autres indices boursiers européens. Il y a L'Oréal qui participe aujourd'hui, vous vous rendez compte, dans un marché aussi volatile et aussi baissier, L'Oréal signe la plus forte hausse du CAC, donc c'est dire là aussi la qualité de ses chiffres. Donc LVMH à l'avant-garde d'un secteur du luxe qui confirme quand même sa très grande résilience et sa très grande forme et qui nous permet de briller côté boursier, hein, du côté des indices européens.
Et oui, notre luxe, LVMH, mais aussi L'Oréal qui fait plus 5,19% à l'heure où on se parle du côté du CAC 40. Merci beaucoup messieurs, merci à Maury qu'on retrouve dans une heure et demie, merci Antoine qu'on retrouve d'ici une demi-heure et merci Edwin qu'on retrouve d'ici quelques minutes, directeur de la gestion chez Philippe Autengre. Pour parler industrie, on va s'intéresser à des jolies entreprises, notamment italiennes et espagnoles. A tout de suite, vous restez avec nous, petite pub et après c'est l'heure de votre dose d'économie avec Stéphane Pedrazzi.
Tout pour investir. Dose d'économie.
Notre dose du vendredi avec vous, Stéphane Pedrazzi. Bonjour.
Bonjour, Lorraine.
Nous allons dessiner le contour, les limites du patriotisme économique en parlant du dossier BioGarant. Le gouvernement doit-il s'opposer au rachat de cette entreprise?
Alors, BioGarant a été mis en vente par son propriétaire, c'est le groupe Servier. Selon les échos, deux laboratoires indiens seraient intéressés par le dossier, donc potentiellement BioGarant pourrait être racheté par un groupe étranger. D'où la réaction de Roland Lescure, le ministre délégué en charge de l'industrie. Il a promis d'être vigilant. Sous-entendu, il pourrait s'opposer au rachat parce que BioGarant, évidemment, est un acteur important des génériques en France, 32% de parts de marché. Et surtout, il a une particularité par rapport à ses concurrents. 90% de ses médicaments sont produits en Europe et la moitié sur le sol français. Donc, il y a vraiment sur ce dossier une question de souveraineté.
Est-ce que c'est possible, d'un point de vue légal, d'un point de vue technique, que le gouvernement puisse tout simplement bloquer cette opération, Stéphane?
Alors oui, c'est complètement possible. C'est légal. Le gouvernement peut bloquer le rachat d'une entreprise française par un groupe étranger si elle fait partie d'un certain nombre de secteurs stratégiques. Donc il y a évidemment tout ce qui est lié à la défense et à la sécurité nationale, mais il y a aussi alors une catégorie qui est assez large, qui regroupe tout ce qui est considéré comme essentiel à la garantie des intérêts du pays. Donc on peut mettre un peu tout et n'importe quoi dedans, mais il y a par exemple les transports ou le secteur de la santé, donc on y est. Il y a effectivement une question de souveraineté. BioGarant produit entre autres de l'amoxicilline, vous savez c'est l'antibiotique le plus utilisé en France, qui est frappé par des pénuries, on en avait beaucoup parlé. Donc oui, il faut garder la main sur cette production, d'autant que depuis la crise sanitaire, le gouvernement a été assez clair, ça fait partie des priorités. Il y a une volonté de reconquête sanitaire de la part du gouvernement.
Mais Stéphane, où positionne-t-on le curseur entre d'une part souveraineté et de l'autre protectionnisme?
Oui, c'est ça. Alors en fait, toute la question, elle est là, où est-ce qu'on place le curseur ? Parce que la notion d'activité essentielle à la garantie des intérêts du pays, elle est très large, je le disais, on peut y mettre beaucoup de choses. En 2005, je vous rappelle que l'État avait menacé de bloquer le potentiel rachat de Danone par PepsiCo. À l'époque, ça avait fait un petit peu grincer des dents aux États-Unis, parce que le yaourt... En quoi est-ce que c'est une activité essentielle aux intérêts du pays? On pouvait se poser la question. Et puis en 2012 aussi, le gouvernement s'était opposé cette fois-ci de manière très formelle au rachat de Dailymotion par l'américain Yahoo. Peut-être que ça aurait été mieux pour son avenir, mais cette catégorie, elle est assez mal définie. Donc souveraineté nationale, oui. Patriotisme économique, là effectivement je suis moins d'accord, parce que le risque, Lorraine, si l'État intervient trop souvent, c'est de décourager les investisseurs étrangers. Si on regarde les chiffres de Business France, en 2022, il y a eu 1800 projets d'investissement étrangers en France qui ont permis de maintenir ou de créer pratiquement 60 000 emplois. Donc on voit bien qu'on en a besoin sur le terrain économique. Et puis l'autre risque, c'est la réciprocité. Si on met des barrières à l'entrée, si on interdit à des groupes étrangers de prendre le contrôle d'entreprises françaises, on risque de rencontrer exactement le même problème au titre des représailles dans d'autres pays. Et on sait que nos entreprises en ont également besoin à l'export.
Et oui, on a besoin d'investisseurs étrangers et on aimerait éviter toute réciprocité dans ce genre de patriotisme économique. Merci Stéphane. Cette séquence est à retrouver en podcast et en replay. C'est un sujet important. Il est également disponible d'ici quelques secondes sur YouTube, où vous pouvez participer en commentaire à la discussion, à la réflexion. Les limites du patriotisme économique avec ce cas de la vente de Biogarant, entre autres. Merci Stéphane. À la semaine prochaine. C'est l'heure de s'occuper de votre portefeuille. Nous allons zoomer sur des jolies valeurs espagnoles, italiennes et puis plus largement parler industrie avec Edwin Faure. À tout de suite.
Tout pour investir sur BFM Business. Rendez-vous sur BFM Business.
Iconic Business, le luxe par BFM Business, toujours plus exclusif, intemporel, mythique, responsable et déculpabilisé du savoir-faire, de la transmission, de l'histoire du luxe. C'est à découvrir sur le site également et sur l'émission Iconic Business. Vivez l'expérience du luxe sur BFM Business.
Iconic Business avec Audrey Maubert, tous les vendredis à 21h sur BFM Business. Tout pour investir en portefeuille.
En portefeuille avec Edwin Faure de l'équipe Philippe Autingre. Rebonjour Edwin.
Rebonjour.
Nous allons parler industrie avec vous et on va démarrer par un petit billet d'humeur sur l'industrie, la relocalisation, le reshoring comme on dit en mauvais français, qui est une lame de fond. Racontez-nous.
Tout à fait. Ça fait des années qu'on parle de relocalisation. Tous les politiques, tous les économistes disent il faut relocaliser. On a tout externalisé en Asie, dans les pays à bas coût. Aujourd'hui, il faut réinternaliser. C'est quelque chose qu'on entend depuis 20 ans. Pour donner un peu une idée, en France, l'industrie représentait, il y a encore quelques années, 20% du PIB. Aujourd'hui, c'est à peu près 10%. Donc, il y a eu vraiment un appauvrissement industriel français. Et c'est à peu près pareil dans beaucoup de pays européens. Donc, c'est pas uniquement la France. Aujourd'hui, depuis 2020, il y a une vraie volonté du gouvernement. Bruno Le Maire a annoncé 1 milliard d'aides aux entreprises françaises qui décident de relocaliser en France. Donc, c'est des choses qui des matériels qu'on peut voir. Et mais surtout, là, ce qui a vraiment changé la dynamique, c'est les problèmes, les pénuries au niveau des composants et des problèmes de transport qu'ont eu les industriels français en 2020, post-Covid. Donc il y a une vraie volonté des industriels aujourd'hui, indépendamment des aides, indépendamment de la volonté des locales, c'est de vouloir internaliser cette production. Alors, c'était des belles paroles. Aujourd'hui, ce sont des faits. Capgemini a annoncé une super étude qui a été publiée hier sur est-ce que ces industriels français ont relocalisé, et c'est le cas. Oui. C'est énorme. Ça représente des milliards qui vont être économisés en Europe. Ça va être booming à la fois pour la création d'emplois, pour la technologie française, pour l'immobilier de près de ces usines. Donc, c'est quelque chose de très bon pour nos économies. C'est aussi des choses très demandées par les industriels à la fois pour réduire les risques. Les tensions géopolitiques qu'on a aujourd'hui, ce sont des qu'on voit, qu'on parlait tout à l'heure ce matin.
Dans le secteur de la santé.
Exactement.
Aussi,
ouais. En se disant, il y a vraiment des enjeux à faire produire en France et surtout à réduire nos risques. On a eu l'Ukraine, on a maintenant l'Israël. Voilà, donc il faut réduire les risques. Et aussi, de plus en plus, c'est le discours globale, c'est quel est l'intérêt au niveau de la planète de produire dans des pays très éloignés, indépendamment des risques de supply chain, c'est aussi les émissions très importantes. Et donc, il y a cette volonté pour l'image de marque, mais aussi de la volonté des clients d'avoir une transparisation des produits et de la production qui vont pousser ces industriels et qui les poussent aujourd'hui à internaliser la production, ce qu'on appelle local pour local. On produit et on vend dans les mêmes pays. Et ça, c'est quelque chose d'important. L'étude précise que 8,7% des chiffres d'affaires de ces industriels français seraient investis dans les prochaines années pour relocaliser. Et c'est une très bonne nouvelle.
8,7%, c'est tout à fait considérable. On parle de reshoring, on parle de nearshoring. Ce phénomène, cette lame de fond, elle nous concerne, nous Français, mais elle concerne aussi nos voisins, notamment européens. Nous allons nous arrêter pendant quelques minutes sur deux valeurs avec lesquelles vous êtes venu ce matin en portefeuille, si je peux dire, Edwin. On est dans l'industrie, on va démarrer du côté des autoroutes. On va commencer avec Riway, si vous voulez.
Tout à fait. Alors Riway, c'est une entreprise italienne qui est spécialisée dans la rénovation au niveau autoroutier, c'est-à-dire les ponts, les viaducs, les barrières que vous avez aux côtés des autoroutes. Le conseil de dire, c'est une entreprise italienne, c'est que malheureusement, le pont de Gênes qui s'est effondré il y a quelques années a fait une alarme au gouvernement italien en disant « Oh là là, mes infrastructures n'ont pas été rénovées, il y a des risques humains et des risques assurantiels, de réputation, etc. » Donc le gouvernement italien a décidé d'investir massivement pour rénover ces infrastructures. Il y a 1,7 milliard par an qui sont investis en Italie, plus qui vont être en plus en croissance sur les 5 prochaines années, plus les aides de l'Union européenne pour la rénovation. Depuis la pandémie, il y a le PNRR, ce qu'on appelle ce plan d'infrastructure, de rénovation, de digital qui va être très important en Italie et qui est très important.
Très keynésien.
Exactement, tout à fait. Et donc ça va être encore plus de croissance pour ces entreprises spécialisées dans la rénovation. Ce sont aussi des entreprises qui bénéficient d'une volonté très importante du tourisme italien, qui est un tourisme très important. C'est une part du PIB de plus en plus important pour ce pays. Et donc il faut des infrastructures importantes. Donc vous êtes sur un sous-jacent en croissance très forte, avec des ambitions très fortes des gouvernements. Et nous avons cette entreprise Riway, une entreprise familiale créée il y a une trentaine d'années, qui est spécialisée dans cette rénovation, qui bénéficie d'une visibilité très importante, d'un carnet de commandes sur 5 ans, avec plus d'un milliard pour une entreprise qui fait 200 millions de chiffre d'affaires. Donc 1 milliard de carnet de commandes, ça vous donne de la visibilité, des marges de plus de 20%. Donc c'est quand même beaucoup de visibilité. C'est une entreprise aussi qui s'est diversifiée dans le ferroviaire, en faisant une acquisition fin de l'année dernière. Donc ils vont vraiment se positionner sur toute l'infrastructure. Peut-être qu'à terme, dans le portuaire, on aura des choses, ce que disent les dirigeants d'entreprise. Une entreprise familiale en croissance, basée en Italie, avec des clients qui sont le gouvernement principalement, qui est plutôt bon payeur sur ce segment d'activité. Donc on est assez confiant, une valorisation à 10 fois les bits. C'est vraiment du fonds de portefeuille de qualité.
Vous aimez les perspectives de croissance, vous aimez le carnet de commandes bien rempli. Et puis voilà, ce sujet aussi de barrière à l'entrée qui est bien bien haut, bien haute, qui permet évidemment d'avoir envie d'avoir cette valeur en portefeuille. Riway, que j'appelle pour ceux qui nous écoutent à la radio, en direct ou en podcast, en délinéarisé, R-E-W-A-Y, on parle d'une entreprise italienne. On passe de l'autre côté de la Méditerranée, on part en Espagne avec une entreprise qui s'appelle Artesh. Alors pardon, mon accent espagnol est sans doute inapproprié, enfin mon non-accent espagnol. On est dans le secteur, je résume mal, du transport et de la distribution d'électricité. Racontez-nous.
Tout à fait, c'est une entreprise en espagnol qui est présente dans 175 pays. Il y a très peu d'entreprises qui sont présentes dans autant de pays dans le monde, surtout pour une petite entreprise espagnole. C'est une entreprise industrielle, on en parlait justement de l'importance de l'industrie dans nos pays européens. C'est une entreprise qui est spécialisée dans tout ce qui est solution pour la connectivité électrique. C'est-à-dire que la principale des clients, c'est des utilities industrielles, c'est-à-dire des EDF, des équivalents qui vont...
Des générales électriques
ou des choses comme ça, qui sont à la fois des clients et aussi des concurrents. L'enjeu, c'est de dire quoi ? On a besoin d'une sécurité plus importante et une électricité plus adaptée sur nos lignes d'approvisionnement, surtout aujourd'hui où il y a une transition énergétique qui se fait. Alors, si vous croyez pas aux énergies renouvelables ou aux autres sources, ça n'a pas d'importance. En tout cas, on va vers une transition et donc on a besoin de capteurs et d'avoir une chaîne d'approvisionnement plus performantes et plus visibles. Ils sont spécialisés là-dedans. C'est une entreprise qui est structurellement en croissance depuis des années, avec des marges qui sont en progression depuis la création. C'est une demande mondiale. Ils ont des usines à travers le monde, 13 usines dans le monde. Si vous bénéficiez de cette transition énergétique qui est plus cyclique, qui est structurelle, industrielle, une entreprise familiale dirigée par, je crois, le petit-fils du fondateur qui a créé l'entreprise après la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est une histoire familiale de la croissance, des marges élevées et surtout un acteur mondial, même s'il est coté en Espagne. Et donc, on dit souvent, il faut regarder le pourcentage de chiffre d'affaires qu'il fait à l'international pour voir vraiment et pas juste regarder dans quel pays l'entreprise est. Et on parlait d'LVMH tout à l'heure, c'est à peu près la même chose.
Et oui, deux belles ETI européennes. En ce qui concerne cette entreprise espagnole, Arteche, que j'appelle A-R-T-E-C-H-E, pour finir, vous l'aimez bien aussi parce que sa valorisation est un petit peu plus basse que le reste du secteur.
Tout à fait, en termes de valorisation, on est à peu près à 14 fois le price earning. Mais il faut dire aussi qu'il y a aussi non seulement une croissance plus élevée que les confrères, une marge qui devrait progresser. On attend des acquisitions importantes, parce qu'en fin de compte, il y a beaucoup de consolidations qui peuvent être faites dans le secteur. Mm-hmm. Aujourd'hui, pour ouvrir un Siemens, vous avez une réduction de valorisation plus importante et vous jouez un petit acteur qui est aujourd'hui en Espagne, ça vous permet de vous diversifier.
Voilà, diversification européenne sur des grosses PME, des ETI, on peut le dire.
Tout à fait, ouais.
Européenne, méditerranéenne, Arteche en Espagne et Riway en Italie. Riway qui est rentré en bourse il n'y a pas très longtemps.
Tout à fait, c'est une introduction. Exactement, et l'entreprise a pris plus de 70%. Donc c'est, il y a encore c'est encore moins cher qu'Arteche, ça se paye 9 fois le PE, donc on peut y aller. C'est vraiment une très belle boîte.
L'industrie en portefeuille avec Edwin Ford de l'équipe Philippe Autingre. Cette séquence, si vous l'avez attrapée en cours, est à retrouver en podcast et en replay d'ici quelques minutes. L'industrie européenne au service de la performance de vos portefeuilles. Merci Edwin. Vous restez avec nous, on continue à s'occuper de vos finances personnelles, de votre culture financière. On va parler investissement dans l'immobilier. Quels sont les sous-jacents à privilégier dans ce type d'investissement? Olivier Lévy, au décryptage. À tout de suite.
Tout pour investir. Le coach.
Notre coach du jour, c'est Olivier Lévy. Bonjour Olivier.
Bonjour Lorraine.
De l'équipe Lévy Capital Partners. Aujourd'hui, on parle immobilier. Bon, comme tous les jours dans cette émission, mais aujourd'hui, on va le faire avec votre patte à vous, votre touche à vous, puisque on va zoomer sur les sous-jacents sur lesquels il faut miser dans un contexte particulier, celui d'une potentielle espérée baisse de taux d'une part, et puis voilà, l'investissement immobilier qu'on espère lui aussi va démarrer, redémarrer un peu. Expliquez-nous pourquoi on fait ce sujet avec vous là.
Écoutez, l'investissement immobilier, comme vous l'avez mentionné, est pluriel. C'est-à-dire qu'il y a des immobiliers, il y a l'immobilier physique, donc avec de multiples sous-jacents, le résidentiel, les bureaux, les commerces, la logistique, la santé. Vous avez l'immobilier que je qualifierais de pierre-papier, tout ce qui concerne les SCPI ou les OPCI. Et vous avez enfin les foncières cotées en bourse, qui elles sont des actions qui opèrent effectivement soit des centres commerciaux, soit des bureaux, soit, comme on l'a dit, des immeubles dans d'autres spécialisations. Si vous voulez, aujourd'hui, on sort d'une période totalement inédite. Hein, on l'a déjà dit souvent sur le plateau, de 10 ans de taux d'intérêt zéro. Aujourd'hui, le taux 10 ans, il est à autour de 3%, et on emprunte aujourd'hui entre 20 et 25 ans, je dirais entre 3,5% et 4,5%. Qui sont les investisseurs? Alors déjà, sortons de la grille des investisseurs, les primo-accédants, qui eux investissent, je dirais, pour leur bien-être en acquérissant leur résidence principale. Donc, acquérir sa résidence principale, effectivement, c'est le temps très long et c'est pricer le bien-être. L'investissement locatif, lui, il doit aujourd'hui se poser multiples questions quant à savoir si le sous-jacent sera résilient sur longue durée. Le résidentiel est attaqué par tout ce qui est DPE, le bureau par les décrets tertiaires et par l'après-Covid, puisque nous vivons une époque où le télétravail est totalement remis en cause. Donc vous avez un schiste totalement entre les bureaux prime dans les centres-villes, dans Paris, etc., et les bureaux en périphérie, dont la valeur s'est un peu dépréciée, il faut le noter, ces deux dernières années. Vous avez toujours des sous-jacents très porteurs, qui le resteront pour des raisons structurelles, car il manque des lits dans les EHPAD, dans les résidences étudiantes, dans les résidences services. La logistique, qu'on continue évidemment à investir dans ce maillage géographique. Donc le résidentiel, là aussi, est la classe d'actifs peut-être la moins compétitive, mais qui reste résiliente sur longue durée. Les SCPI, les OPCI...
On passe à la pierre papier.
La pierre papier, tout à fait, vous avez raison de le dire, c'est pas très liquide. Là aussi, il faut pouvoir trouver un acheteur si le promoteur de la SCPI se met pas en face.
C'est le temps long de l'immobilier résidentiel. On est dedans
c'est
pour
le temps long,
10 ans.
Tout à fait, mais c'est aussi le propre d'une certaine typologie d'investisseurs, souvent les baby boomers ou des gens qui ont besoin de compléments de revenus.
Les baby boomers?
Oui, tout à fait. Des gens qui ont déjà acheter leur résidence principale.
Ils se sont diversifiés avec de la pierre papier après avoir sécurisé leur résidence principale.
Tout à fait. Ils souhaitent des revenus complémentaires et ils souhaitent possiblement aussi conserver ça ad vitam et transmettre la nue propriété à leurs enfants. Donc aujourd'hui, vous avez effectivement là aussi un décalage entre des SCPI qui ont pris de la dette et d'autres qui n'ont pas pris de la dette, des SCPI qui ont été très conservateurs sur longue durée, qui existent depuis 40 ans, et d'autres qui viennent de se créer, qui sont un peu plus punchy et dynamiques. Là aussi, j'invite tous les investisseurs à rester très prudents et bien choisir le choix des sous-jacents par rapport à des thématiques qui indexent ou non les loyers. On le voit très clairement, la logistique ou le commerce a un vrai pricing power, je dirais, par rapport au résidentiel, qui n'en a très peu, puisqu'effectivement, dans certaines zones, on a même de l'encadrement des loyers, et voire du gel de loyers.
Ces zones-là, ça fait fuir les gens des SCPI?
Oui, à court terme, mais ça permet à certains audacieux, là aussi, de saisir des opportunités. Après certaines dépréciations qui ont déjà eu lieu, c'est de pouvoir investir sur ces papiers-là pour le long terme, parce qu'ils peuvent porter, effectivement, le risque de volatilité de ces sous-jacents.
Vous parlez de l'intérêt des baby-boomers pour la SCPI, les SCPI. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une nouvelle clientèle?
Oui, les jeunes s'y intéressent un peu, puisque les jeunes ont aussi l'impossibilité qui est la leur d'acheter leur résidence principale, et donc préfèrent possiblement monter des stratégies où ils investissent d'abord sur du locatif, soit en direct, soit sur des SCPI et des OPCI.
Les nouvelles SCPI, on en a un petit peu parlé dans cette émission, elles ont besoin de beaucoup de marketing. Quel est votre regard là-dessus?
Alors moi, je suis très dubitatif. Je considère qu'elles vont devoir acheter en 2024, 2025, 2026 et les prochaines années des actifs qui seront valorisés où il y a des opportunités, alors que d'autres SCPI, qui sont les SCPI historiques, sans donner de nom ici, existent depuis 30, 40 ans, ont déjà constitué des patrimoines pour lesquels les valorisations ont été plus ou moins conservatrices quand même. Donc on a aussi un décalage, on a des réserves, on a des provisions, on a du cash embarqué qui leur permettent là aussi de saisir des opportunités versus les nouveaux entrants qui ont besoin, comme vous le mentionnez, d'investir massivement dans le marketing.
Olivier, je reprends les primo-accédants dont vous parliez tout à l'heure. Ceux qui aimeraient bien pouvoir pricer leur bien-être en achetant une première maison, un premier appartement. Est-ce que, quand on n'a pas les conditions de crédit pour partir sur du résidentiel en primo-accession, est-ce qu'on se tourne vers les SCPI pour placer cet argent?
Je le répète, il vous faut, quand vous démarrez dans la vie, conserver une poche de liquidité. Si l'on investit dans ce type de véhicule, il faut clairement se dire que c'est du private equity et que j'investis pour au moins 10 ans. Donc que je ne pourrais pas être forcément en capacité de vendre au prix auquel je le souhaite dans les 10 ans, quand bien même effectivement j'aurai une l'occasion d'acheter ma résidence principale dans 5 ans avec un périmètre familial qui aura aussi peut-être évolué avec là aussi une feuille de route différente. On parle beaucoup des SCPI, des OPCI, je voudrais aussi parler, si vous le permettez, des foncières cotées.
Mais oui, parlons-en de ces foncières cotées.
Oui, c'est un gisement qui a été totalement survendu. Ce sont donc des actions.
Quand?
Elles ont été survendues parce que la bourse anticipe justement à mesure où les taux ont explosé à la hausse, qu'on est passé de 0 à 4% très rapidement. Hein, ça a été extrêmement violent fin 2021-2022. Et donc on a vu cet univers d'investissement fortement pénalisé. Alors qu'à l'intérieur, vous avez de très belles success stories. Vous avez là aussi des sous-jacents entre des centres commerciaux, pour ne pas citer de nom, comme Unibail, Les Pierres, qui ont des structures bilancielles qui se renforcent, avec des situations quand même spéciales sur Unibail. Ouais, vous avez des bureaux chez Icade et Gecina. Vous avez effectivement du résidentiel chez Vonovia, Deutsche Wohnen. Donc vous avez tout une palette de, d'opportunités de saisir au travers de vos portefeuilles titres des actions qui vous donnent là aussi défensivement du rendement, donc vous embarquez du rendement et vous embarquez aussi une certaine décote puisque la bourse là aussi a suranticipé, un peu survendu cette classe d'actifs.
Décote que vous estimez à combien, Olivier ?
Écoutez, alors, les experts le mentionnent, moi je l'estime aussi entre 25 et 30% de décalage par rapport aux valorisations réelles qui elles-mêmes ont déjà été dépréciées par les experts ces 18 derniers mois. Donc on a possiblement des points d'entrée intéressants avec là aussi des situations spéciales, du rendement et n'oublions pas, pour certains investisseurs qui nous regardent, ces foncières offrent du rendement et sont là aussi une classe d'actifs différenciante par rapport à du non-coté ou à de l'immobilier direct qui nécessite souvent beaucoup de travail. Car ne l'oublions pas, l'investissement en direct dans l'investissement réel, c'est gérer les locataires, s'assurer de la du bon entretien de la copropriété, c'est subir l'exceptionnel s'il faut pas ravaler, changer l'ascenseur, subir les hausses de taxes foncières dans la durée. Donc il faut pouvoir pricer ça
absolument
dans la durée.
Les foncières cotées, les SCPI, les OPCI et cet immo physique, est-ce qu'il y a une allocation parfaite d'un portefeuille, d'une somme d'argent qu'on doit répartir à cheval sur ces trois types d'immobilier, si je puis dire, pour conclure, Olivier ?
Écoutez, tout dépend du cahier des charges de chaque investisseur. Là aussi, tout dépend de l'âge que vous avez et de vos moyens. Donc, très clairement, il faut parcimonieusement investir dans les SCPI, les OPCI et les foncières cotées et se poser la question en 2024 de notre capacité à acheter aujourd'hui ou demain sa résidence principale. Les investisseurs aujourd'hui se détournent momentanément de la résidence principale et d'ailleurs les promoteurs en souffrent énormément.
Oui, on va sur le neuf, ouais.
Et se pose aussi la question de la raréfaction de ces biens puisque les logements manquent. Les loyers sont en tension dans beaucoup de zones et l'artificialisation des sols joue aussi à plein pour bon nombre de gens qui souhaitent avoir leur pavillon, leur résidence principale dans les 3, 4, 5 prochaines années.
Évidemment, en sous-jacent de tout ça, pour reprendre l'expression, il y a le DPE. Le DPE dont on va parler dans la séquence immobilier d'ici 20 minutes avec Marie-Cœur de Roy et l'équipe de GoFlint, parce qu'il y a peut-être des arbitrages à faire. Acheter une passoire thermique, ça peut être intéressant, que vous soyez primo-accédant ou pas. Mais il y a une grille de lecture à respecter. Cette grille, on va vous la fournir dans notre séquence immobilier. Pour finir, Olivier, ce DPE sur le résidentiel, ça vous fait peur ?
Écoutez, oui et non, puisqu'en fait, il est nécessaire, mais bon nombre de bailleurs, bon nombre de propriétaires ne pourront pas faire face. Et donc, n'ont pas encore.
Ne peuvent déjà plus faire face.
Et ne peuvent déjà plus faire face. Donc, certains commencent à diagnostiquer et à mettre en vente leurs appartements ou leurs investissements locatifs. D'autres se posent la question de savoir si ce DPE, au même titre que le décret tertiaire, ne sera pas possiblement reporté de par la masse que cela impose.
Oui.
À rénover dans le parc immobilier. Donc évidemment, je pense que c'est un arbitrage. D'un autre côté, il faut aussi se poser la question de savoir si on a le choix et si on peut se permettre d'arbitrer aujourd'hui, en 2024, ces actifs-là. C'est vrai pour le résidentiel, je répète, c'est vrai aussi pour les bureaux qui souffrent majoritairement en périphérie et pas du tout dans le cœur des villes. Où ils restent très recherchés après la période Covid que nous avons vécue, où les grandes entreprises effectivement cherchent moins de mètres carrés, mais toujours mieux situés et proches, là aussi, des zones où ils pourront recevoir leurs clients, recevoir leurs employés et fournisseurs.
Dans la ville du quart d'heure idéal. Merci beaucoup, Olivier Lévy de Lévy Capital Partners, d'avoir été avec nous au décryptage sur l'investissement immobilier, les sous-jacents à privilégier, on l'a vu, depuis l'immobilier physique, mais également, on a parlé pierre-papier, qui vous est cher, cher auditeur, et puis action, finalement, parce qu'avec les foncières cotées, on parle de bourse. Merci beaucoup, Olivier, on vous retrouve dans quelques jours pour continuer à décrypter certains sujets financiers dans cette émission. Je vous précise que cette séquence est à retrouver en podcast et en replay d'ici quelques secondes. L'immobilier sera au programme de la deuxième heure de Tout pour investir. Nous serons avec Marie-Cœur de Roy et Mia et Gabrielou de l'équipe de GoFlint pour savoir s'il faut ou pas acheter une passoire thermique et comment on fait. Et puis surtout après l'IMO, nous serons En mode Bitcoin, on va décrypter le halving, cet épisode important de la vie de la blockchain et de Bitcoin qui devrait avoir lieu d'ici quelques heures dans la nuit, peut-être dans cette nuit à venir, et ce qu'il signifie pour nous, investisseurs particuliers. À tout de suite.
Tout pour investir sur BFM Business.